Bienvenue à Café, votre émission d'art et de culture préférée du vendredi soir sur les ondes de CKUT. Aujourd'hui, Lynn reçoit l'artiste Émile Bourgault en direct au studio. On aura aussi quelques moments musicaux, mais tout d'abord, chers auditeurs, j'ai la chance de m'entretenir avec l'artiste montréalaise multidisciplinaire Geneviève Feuillard. Tout d'abord, petite mise en contexte, Geneviève, je te connais depuis quand même quelques années. On gravite autour des mêmes cercles de personnes, mais c'est tout particulièrement à l'été 2022 que j'ai été plus proche de ton art. La création d'une fournaise archaïque, je te laisse continuer.
Allô, Charlotte, merci. Ah, ben oui. Oui, donc ce projet collaboratif expérimental était un projet de moi et Amélie Bélanger qui prend ses sources dans une recherche au préalable qui avait été faite avec Ito, là, et là, le François. Fait que ça date de comme une couple d'années, là. Ça fait comme 4-5 ans que j'ai été initiée à l'art semi-sacré des fournaises archaïques, mais... On dit archaïque, mais c'est encore hyper moderne comme technologie, dans le sens qu'il y a des gens qui l'utilisent un peu partout dans le monde, mais c'est des fournaises en argile avec du foin, du sable, de la chamotte, des briques ou pas, pour fabriquer des fournaises pour faire réchauffer du verre, fondre, fusionner du verre et souffler. Et spécifiquement, quand on s'est rencontrés, c'était comme la première grosse expérience de recherche, à la fois pour moi et pour Amélie, autour de l'envie de faire du verre à partir de plantes. Fait que c'est... Il y a eu la création de cette fournaise-là, mais c'était aussi beaucoup de recherches et de réflexions sur la nature des choses, l'origine des choses, la transformation de ces matières-là en verre. Fait que c'est un peu ça le gros projet qui était ma tante, qui l'est encore, qui recommence à s'activer, mais qui avait besoin d'une petite pause.
Oui, c'est ça, parce que là, on dirait qu'on a... J'ai skippé une couple de trucs, là. Ce projet-là s'est fait à Matane pendant tout un été. En gros, c'était 2 mois au moins de travail. Puis le but ultime, parce que tu es une artiste du verre, entre autres, t'es multidisciplinaire, il y a la photo, il y a le verre, il y a, je pense, l'installation. On pourra rentrer dans plus de détails plus tard, mais la fabrication aussi... Mais là, c'était dans un contexte de fabrication pour créer du verre à partir d'éléments végétaux qu'on trouvait directement à Matane. Fait que c'était un laboratoire, en fait, que tu as eu la chance de faire avec Amélie, qui est aussi artiste visuel.
Ouais, qui est très dans un peu l'anthropocène, cette idée-là qui est comme... Ben, je sais pas, je laisserai parler de sa démarche. Sa démarche est fantastique et incroyable, mais on avait des points en commun. Moi, j'ai comme un rapport qui est aussi... J'étais autant attirée par les choses extra-naturelles qu'extra-artificielles. Tu sais, pour expliquer un peu, en gros, moi, je suis Gémeaux ascendant balance, comme j'aime bien dédier toute ma démarche artistique. Ah non, c'est pas vrai, je fais un peu des blagues, mais j'ai quand même des... Je suis intéressée par les binarités, autant je veux les déconstruire parce que je trouve ça complètement stupide, autant je me situe un peu entre canal D et canal V, entre la vie et la mort. Puis il y avait quelque chose dans l'idée de faire son propre verre qui est comme la première matière un peu transformée de notre humanité. Il y en a eu plusieurs, mais c'est quand même une matière hyper spéciale. Puis on l'utilise partout dans nos vies, puis on ne la questionne pas nécessairement. Fait que je pense que moi et Amélie, on se rejoignait sur comme questionner les choses qui nous entourent, comprendre les technologies qu'on utilise. Moi, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai peut-être une petite tendance survivaliste qui aime ça, qui comprendre comment les choses sont faites, pourquoi elles sont faites. Ça me rassure, ça enrichit mon mode de vie. Ma pratique artistique est un peu là-dedans, mais pas totalement. Mais ce projet-là, spécifiquement de verre végétal, c'est ça. C'est un peu de se reconnecter avec le territoire d'une manière poétique, de le marcher différemment, de ne pas être extractiviste dans notre manière de voir ça. Puis, au final, le résultat de ces recherches-là, c'est des petites nuggets de verre de genre 1 pouce carré qui servent à rien, tu sais, à part raconter l'histoire de qu'est-ce que ça prend comme énergie, comme relation pour créer cette chose-là. Puis, tu sais, je dis à Amélie, mais tu sais, particulièrement Charlotte, à quel point ça a pris des gens et du monde et de l'énergie fabriquer ça. Je veux dire, dans le sens que on a récolté de la silice dans une vieille mine abandonnée, mais il fallait la transformer, l'écraser. C'est des heures de travail, de force physique, toi-même forcé là-dessus. Mais c'est aussi de cuisiner pour une gang de monde qui aide à assister des gens qui se posent des questions, qui sont pas exactement sûrs où s'en aller, mais qui essayent des trucs, qui vivent des stress, qui vivent des grandes joies parce que ben, tu as réussi à faire de la potasse avec de la cendre de prêle que tu as récoltée à travers 22 forêts pour pas lacérer le territoire non plus. Fait que tu sais, c'est des histoires. Il y a aussi la rencontre de l'histoire de Saint-Luc-de-Matane. Ma mère vient de ce coin-là, fait que c'est pour ça qu'on a fait le projet-là, puis qu'il y a comme une espèce de maison où je suis en ce moment qui sert à rien, ben, mais qui sert à nous accueillir, mais qui était parfaite pour ce genre de projet-là. Donc, là, je peux en parler pendant 25 minutes de ce projet, mais bref, c'est comme une aventure totale, une œuvre d'art totale, je trouve, parce que c'est ça, tu rentres aussi dans l'histoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de Matane. T'sais, c'est une matière, le verre, qui n'existait pas vraiment sur notre territoire, mais il y avait des fours à potasse. Fait que tu finis par comme naviguer puis aller un peu partout. En 2 mois, c'est immense comme tâche. C'était comme un peu un gros défi. Puis peut-être une certaine prétention de pouvoir se dire, ah, en 2 mois, je vais faire un verre transparent qui va être utilisable. T'sais, au final, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui, dans moi et vers le processus plus que le résultat, puis c'était vraiment une super belle aventure.
C'est ça, parce que en fait, toi, tu travailles le verre, non, à Montréal, ailleurs, tu sais, de manière plus professionnelle. Tu es artiste du verre, personnellement, mais aussi avec d'autres artistes. Je pense que tu fais de l'assistance, etc. Fait que c'est vraiment une matière que tu connais déjà extrêmement bien. Puis c'est pour ça que je pense que tu t'es permis d'aller explorer, avec ce projet-là, de
Ben, il y a
manière
quelque chose.
plus
Ouais.
exploratoire, justement.
C'est ça. Il y a quelque chose où je pense que j'ai un petit côté geek en moi qui aime ça savoir. C'est ça. Les transformations, par quoi les éléments passent, qui est comme un peu une partie du verre, mais qu'au final, le verre soufflé, dans, mettons, l'écosystème montréalais, je suis entourée de tellement de souffleurs de verre différents qui ont vraiment des approches super intéressantes. Puis je pense que c'est un médium hybride. Très cool, le verre, qui permet à plusieurs personnes de le prendre de la manière dont ils veulent, mais c'est aussi un médium qui est quand même enraciné dans des techniques vénitiennes, italiennes, hyper rigides et strictes. Je peux faire un raccourci du verre, mais il y a eu le studio Glass Moving dans les années 70 où tout ça est sorti un peu de l'Italie, est venu aux States, puis là, tu avais comme des Chiouli, puis des artistes qui ont comme amené ça vers l'expression artistique. Fait que c'est comme un médium qui a été genre utilisé pour certaines choses et pas pour d'autres, et inversement, qui est politique, qui est un peu multiple. Fait que moi, mon rapport au verre, c'est pas celui de quelqu'un qui est hyper bonne techniquement, qui est hyper. Je suis pas intéressée par ça. J'ai de l'admiration pour ça, mais ce que j'aime, c'est ce que le médium dit. Tu sais, c'est un médium entre le liquide, le solide, qui a l'air d'être transparent, opaque, qui est isolant, qui est. Il y a quelque chose de super intéressant, je trouve, dans sa. C'est quelque chose que je trouve le verre en soi qui est comme non catégorisable. Mais c'est spécifique. J'ai comme. En tout cas, bref.
Mais
J'ai. Ouais, vas-y.
c'est parfait parce que j'aime ça que tu parles de à quel point il y a des gens qui se spécialisent dans l'hyper technique du verre. Puis d'ailleurs, tu avais fait un workshop là, où je ne sais pas trop comment tu le décrirais avec un artiste du verre qui est justement plus peut-être dans l'hyper technique.
Ouais. Ben, c'est comme tu sais, en soi, il y a un équilibre important à avoir entre le technique et le créatif pour pouvoir vouloir atteindre une pièce, une œuvre, il faut que tu sois capable de la faire. Fait qu'il y a des frustrations qui peuvent venir. Moi, je veux dire, j'ai étudié en verre il y a comme 10 ans. Je suis partie travailler. J'ai une petite résidence en Asie, fantastique. Après, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je voulais dire. Je suis allée à Concordia. J'ai fait de la céramique, de la théologie. Puis après ça, ben j'ai fait tout plein de choses. Tu sais, je me considère comme une professionnelle de la gigue, mais je suis revenue en verre il y a genre 2 ans par un désir profond, viscéral, de retoucher à cette matière-là, parce qu'il y a quelque chose d'unique que tu peux pas retrouver nulle part quand tu travailles cette matière-là. Après, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dire avec, qui est complexe. Puis là, je pense que j'y trouve mon sens, mais ça reste quand même qu'avoir pris cette espace de congé-là, du verre ou d'un retrait qui est nécessaire pour moi, qui était, là, j'ai une bonne hygiène artistique avec ce médium-là, je suis pas en train de me culpabiliser parce que j'en souffre pas assez, puis quand j'en souffre, je suis vraiment dans un espace où je me dis, hey, ça coûte cher faire ça, je fais ça parce que ça nourrit ma vie d'une expérience unique et spéciale, puis c'est bon, avant, j'étais un peu plus dans une idée de, OK, être techniquement parfaite, là, ça va, mais ça reste qu'avoir pris ce retrait-là, ben, je suis arrivée puis j'étais rouillée. Tu sais, c'est comme, OK, faut repartir du début. Fait que moi, c'est ça. Tu sais, je fais une petite production de verre avec des bonhommes sourires puis des bonhommes tristes où ben, on sent la marque de toute cette décennie-là où j'étais in and out. Je vais avoir des batches de verre qui sont comme, wow, techniquement, genre, incroyable. Puis l'autre journée, ben, ils sont un peu plus croche, puis l'autre après, ils sont encore plus croche, puis ça fait en sorte que tous ces petits bonhommes-là deviennent un peu à l'image de mes amis, de ma famille, de l'importance que je mets dans le relationnel aussi. Fait que, bref.
Oui, puis là, pour les auditeuristes, je vais préciser, tu fais des verres en verre, tu sais, des verres pour boire, là,
Ouais,
avec
aussi.
aussi, tu sais, entre autres. Puis ça fait partie un peu de ta signature un peu plus publique dans le domaine du verre, j'ai l'impression, parce que il y a un côté un peu absurde à ces objets-là, puis en même temps, il y a quelque chose de tellement incroyable dans la réalisation. Avec, tu sais, j'en ai un devant moi présentement, puis c'est complètement fou, là. T'sais, non seulement le petit bonhomme sourire que tu as réussi à faire sur les verres, mais surtout comme la texture que tu as mis avec les pigments, la forme, tu sais, un côté réalisation qui est incroyable.
Merci beaucoup. Ben, j'aime beaucoup. Tout ce qui est maximaliste, j'aime ça mettre beaucoup d'informations. Peut-être que c'est parce qu'on vit dans une société où il y a plein d'informations partout, mais j'aime ça quand il y a beaucoup de choses. Le bonhomme sourire, c'est quelque chose qui est dans ma pratique un peu depuis un bout, je me suis longtemps questionnée sur ce symbole-là qui est comme supposé te rendre heureux, mais moi, il me rend plus anxieux dans ce qui dégage de la société capitaliste. Bref, fait que c'est genre une réutilisation de ce truc-là. C'est 2 points puis une ligne, mais à chaque fois que je le fais, il donne quelque chose de différent. Puis il y a un attachement automatique avec ces petits verres-là, que moi, dans le fond, tu sais, je les ai faits d'abord pour moi parce que ça me faisait rire, ça me faisait vivre quelque chose. Puis ben, c'est quelque chose que je vais juste vendre sporadiquement sur Instagram, mais c'est que du plaisir. C'est ça. C'est tout nouveau, là. Ça fait
Oui,
comme
c'est
un.
juste que ça a créé une vague de popularité quand même drôle, impressionnante, là, parce que, je veux dire, ils sont quand même assez attachants. Mais quand tu parlais aussi de maximalisme, ça me fait penser à ta pratique de photographie,
Oh
parce
my
que je ne sais pas si tu veux rentrer
J'ai des
là-dedans.
angoisses d'être. Non, mais c'est parce que j'ai des angoisses qui sont complètement légitimes, dont j'essaie de me départir sur être à ce point multidisciplinaire. Tu sais, je suis contente, là, je prends cette place-là, puis je l'embrasse dans ma vie, puis j'essaie de la défendre. Mais des fois, c'est particulier d'être comme, bon, OK, la fille qui fait de la photo du verre, toutes ces affaires-là. Mais oui, en fait, tu sais, la photo, c'est vraiment comme un des premiers médiums que j'ai eu dans l'adolescence. Le début de l'adolescence, c'était l'écriture, la photographie. Je pense, j'ai toujours été un enfant qui voulait comme garder ou prendre les choses, les collectionner, les rendre physiques pour moi, les rendre vraies. Fait que l'écriture, la photo, je pense que c'est un des premiers actes qui permet que l'univers sensible devienne réel. T'sais? Parce que là, tu te dis, bon, ben, j'ai pris une photo de cet ami-là que j'aime vraiment, mais j'ai pris une photo de lui. Fait que notre relation existe. Je l'écris, elle existe. Fait que je pense que c'est plus un témoignage. Mais ouais, fait que la photo analogue argentique, ça fait comme. Depuis toujours, j'en fais. Ces temps-ci, depuis 2 ans, moins. Mais c'est aussi révélateur de comment je change aussi en tant qu'humain, je pense. J'ai moins besoin de prendre, de comme. Je pense pas que je prenais, mais je pense que il y avait quelque chose de. Il y avait une instabilité à combler à travers la prise d'image, tu sais. Que là,
Oui.
maintenant, je pense que je sculpte, tu sais.
Ouais, t'es plus dans le physique concret, t'es moins dans la prise de photo avec
Mais ça va revenir, tu
un
sais.
écran devant. Mais il
Mais
y
ça, je
a.
dis ça, puis je fais des collages Instagram à tous les 6 minutes, tu sais. Fait
C'est
que je
ça.
pense que mon téléphone est devenu aussi mon appareil 35 mm, puis c'est correct, là, tu sais, dans le sens que c'est un autre médium.
Oui.
Ouais.
Puis, mais on peut reconnaître des similitudes quand même dans ton esthétique. Tu sais, il y a quelque chose de. Il y a un grain dans tes photos, il y a. T'sais, un processus aussi dans comment tu travailles ta photo une fois qu'elle a été prise, t'sais, avec je saurais même pas par où partir sur c'est quoi tes techniques, là, mais tu as un travail
Ouais.
qui est fait, c'est pas juste tu prends la photo, tu la fais développer, puis il est doux, là.
Non, c'est ça. Ben, il y a quand même le côté où j'aime ça, développer ma propre pellicule, utiliser des pellicules qui sont vieilles. Fait que il y a beaucoup de. Ben, scanner aussi mes propres films. Tu sais, je veux dire, j'enlève pas toujours la poussière. Des fois, volontairement, je vais la laisser là. Puis après, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, l'acte de prendre la photo, le développer, scanner, ça fait tellement des layers de transformation de l'image qu'à un moment donné, des fois, ça fait en sorte que j'ai eu des films un peu où tu te demandes où est-ce que tu es, là. Mais après, c'est aussi comme plus tu vas dans l'abstrait plus chaotique, on dirait que plus ça devient aussi une épée Damoclès où tu souhaites avoir de quoi de propre à un moment donné, puis de lisible, puis de compréhensible. Fait que je pense toujours des moments où je rentre dans quelque part, je vais très loin, je reviens, je fais autre chose. Puis là, ben, je navigue entre ces disciplines-là
Oui,
dans
puis d'ailleurs. Oui, dans ta vie, puis c'est ça, t'es comme, on s'en est parlé, toi puis moi, à quel point, ben, tu te décris comme professionnelle gigueuse, t'sais, autant en art qu'en travail, qu'en vie, dans le milieu capitaliste.
Exact, mais c'est comme drôle parce qu'on dirait que je parlais avec mon frère ce matin, puis il y avait comme cette idée-là de. J'ai comme aidé, j'ai fait la scénographie pour un spectacle de théâtre, puis là, on parlait du jeu, puis le métier d'acteur, puis l'impressionnante capacité qu'ont eu mes amis de performer la semaine passée, Gabriel-Antoine Roy, puis Étienne Loup, que j'admire beaucoup, puis c'était vraiment un beau projet. Mais on parlait de
C'était
justement
la grande mascarade à la
La grande
chapelle.
mascarade, la chapelle. C'était
C'était
vraiment le fun. J'ai fait
exceptionnel.
des rêves toute la nuit par rapport à ça. C'était trippant. Mais il y avait comme un côté où je pense que j'ai fait un peu de théâtre au secondaire, puis au cégep, tu sais, puis de l'impro. Puis à un moment donné, j'ai arrêté ça. Là, mon frère, il était comme, ah, t'as pas envie d'y revenir? Puis j'étais là, wow, minute, j'ai en masse d'affaires à faire. Mais il y a un côté où ça m'a aidé dans ma vie de tous les jours, dans mes relations interpersonnelles, à être plus extraverti. Quoique, j'ai pas des gros problèmes d'extroversion, là, je parle tout le temps. Mais il y a comme un côté dans l'idée d'être comédien, comédienne, acteur, actrice, qui fait que ça te permet d'emprunter le personnage que tu veux quand tu le veux. Puis il y a de quoi d'hyper libérateur que je pense que j'ai intégré dans ma manière de voir l'art visuel, où je peux être chimiste puis faire du verre végétal. Puis après ça, le lendemain, ben, je peux faire des verres avec des bonhommes sourires. Puis le surlendemain, faire des socles avec du bouillon de poulet. Puis après ça, ben, travailler en Renault. Puis là, travailler à emballer du gruau pour l'armée. Puis là, après ça, tu sais, comme je pense. Je vois un peu ma vie comme pas un travail. Tu sais, je suis en pleine présence de moi, mais il y a quand même, je peux emprunter les métiers que je veux, puis je me laisse cette liberté-là. Pour moi, c'est vraiment important de me dire, hey, tout se catégorise maintenant, tu sais, dans des trucs vraiment simples. Fait que quand tu es plusieurs choses simples en même temps, ça devient vraiment compliqué, mais j'aime ça, les affaires complexes. Fait que je vais à fond. Puis c'est ça, j'essaye, je veux dire, on n'a tellement pas beaucoup de temps sur cette planète qu'il faut faire ce qu'on veut, puis y aller à 100% dans des choses, même si on se sent imposteur, puis qu'on se dit, ah non, ça n'a pas rapport que je me mette à faire ça. Ben, essaye-les, tu sais. Fait que
Ben
c'est
oui, c'est
ça.
ça, complètement. C'est ça, j'aimerais aussi dire que on n'a pas assez parlé de ton côté scénographe, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a interviewé les deux interprètes pour qui tu as fait la scénographie de La Grande Mascarade la semaine passée à l'émission. Puis ben c'était un show exceptionnel. Puis
Ouais. C'était un trip d'amis vraiment le fun, de réflexion.
Geneviève Feuillard, ton nom d'artiste. Écoute, j'invite les gens à aller voir ton Instagram, ton site web. Ton site web, c'est genevièvefeuillard.com. Fait qu'on arrive vraiment à la fin de notre temps alloué pour cet entretien. Un immense merci encore à toi, Geneviève Feuillard, pour ton temps. Avant de continuer l'émission avec Lynn qui va s'entretenir avec Émile Bourgault, je vous propose d'écouter la pièce Correspondance de Joël Lavoie. Merci beaucoup.
Bonjour, Émile Bourgault.
Bonjour.
vous êtes toujours à CKUT, à l'émission Café, votre émission préférée d'horticulture du vendredi soir. Je suis présentement avec Émile Bourgault, compositeur, interprète. Comment est-ce que tu te définis?
Auteur, compositeur, interprète. Voilà, je fais de la musique, j'écris des chansons.
Parfait, ça. Donc aujourd'hui, on t'accueille pour une entrevue et quelques tunes live. Donc, je vais juste résumer un petit peu ton parcours pour nos auditeuristes. Donc, dans les dernières années, tu as sorti deux EP. Tu as gagné plusieurs prix, donc, dont le gagnant du volet adulte du Festival international de la chanson de Granby, premier prix de ma première place des arts, finale des Francouvertes, et ton premier album sort vendredi prochain. Première question, ça serait, comment ces prix-là te font évoluer dans ta place dans le monde de la musique? Est-ce que ça te fait sentir plus légitime? Est-ce que ça ajoute de la pression?
C'est sûr qu'il y a une part de légitimité qui s'ajoute, dans le sens que c'est le fun de dire dans des conversations « j'ai gagné Grimbé » ou « j'ai participé à ci, j'ai participé à ça ». Après ça, ça reste avant tout des expériences incroyables de scène et aussi humainement. T'sais, je veux dire, rencontrer tout ce monde-là, ou à Granby cet été, on était 24 artistes, plus un metteur en scène, plus des gens de prod. Fait que, t'sais, c'est aussi une introduction professionnelle quand même exceptionnelle dans ce milieu-là. Puis après ça, c'est sûr que les contacts, ça aide, là. Je veux dire, ma vie est différente, et je pense que ma carrière est différente avant et après Granby, avant et après ma première place des arts aussi, les Francouvertes aussi qui avaient aider beaucoup de choses. T'sais, en fait, c'est juste de connaître un peu plus à chaque expérience ce milieu-là, que j'essaie de faire le mien aussi. Fait que, t'sais, c'est connaître mon travail un peu à tous les jours, mais d'une façon quand même intensive, pendant 2 semaines pour ce qui est de Granby, mettons, mais qui a changé beaucoup de choses après, c'est sûr.
Ouais, ça doit être des expériences qui te font comme évoluer d'un coup, j'imagine. Là,
tellement.
Tu as tellement de choses en peu de temps. T'sais.
On rentre, puis on connaît personne, puis à la fin, tout le monde braille. C'est
ouais.
Un peu ça le vibe. C'est parce que c'est intense, puis parce que aussi on apprend à se connaître humainement avant même d'apprendre à connaître la musique des autres. Fait que ça fait que quand on voit nos amis sur scène, après, on est juste comme « wow, c'est exactement ça que je voulais entendre de cette personne-là » parce qu'on la connaît avant. Ça aussi, c'était une expérience quand même bouleversante. D'habitude, on entend la musique, puis après, on rencontre la personne. Fait qu'on a comme le temps de se faire des scénarios dans sa tête de comment va être cette personne-là selon la musique qu'elle fait. Mais là, c'était le contraire. Fait que c'est comme... J'ai appris aussi que c'était presque impossible de pas aimer ce qu'une personne faisait quand on la connaissait, on l'appréciait comme humain, tu sais. Fait que c'était vraiment quelque chose. Puis c'est des gens qui restent, tu sais, dans mon cercle artistique puis tout ça. Fait que c'était des super belles expériences.
Malade. Puis je me demandais, c'est quoi ta plus grande fierté du moment? Puis ça peut être vraiment minuscule, là, genre. Okay. Moi, ma plus grande fierté du moment, c'est de pas passer trop de temps sur mon sel avant de le matin. Genre. Ça peut vraiment être n'importe quoi.
C'est une bonne question. Je pense que ce serait d'être très calme. Plus calme qu'avant, plus en phase avec mes besoins, mes désirs du moment. Je pense que je suis dans une très bonne zone en ce moment. Là. Puis je commence à le réaliser puis à l'apprécier aussi au quotidien. Je prends peut-être un petit peu plus de temps pour les petites choses, de penser plus aussi aux gens qui m'entourent, aux gens qui m'aiment, aux gens que j'aime. Je pense que c'est comme facile quand on vit des montagnes russes en musique, tu sais, puis tout ça, de s'éloigner un peu ou de se perdre dans le travail, mais j'ai comme quand même aussi cette fierté-là d'avoir un cercle hors travail très fort et avec lequel je peux passer du temps, tu sais, à juste avoir du fun, tu sais. Fait que c'est super précieux pour moi. Ce serait une fierté, en fait, je dirais, en ce moment.
Puis qu'est-ce que tu penses qui a amené ça? Qu'est-ce qui a changé dans les derniers temps pour que ça s'améliore?
Je sais pas. Je pense que c'est... J'ai toujours rêvé énormément. Puis là, de voir quelques rêves que j'avais se réaliser, on dirait que j'ai l'impression... C'est pas péjoratif ou négatif, c'est juste que j'ai l'impression que j'ai réalisé des rêves, puis qu'au moment de les réaliser, j'ai fait comme « Ah, bon, ben, c'est fait. » Puis l'humain étant comme il est, on pense toujours au prochain check, tu sais, sur la liste. Mais c'est des trucs que je rêvais depuis des années, puis de l'accueillir, puis de le vivre de façon, justement, un petit peu plus posée, un petit peu plus calme, en gardant vraiment totalement mes pieds sur terre, ça me permet de justement de pas changer, puis d'entretenir d'autres relations, puis d'entretenir des relations de façon normale et pas en pensant tout le temps à ça, tu sais, à ma carrière, puis à ces affaires-là, sans non plus, tu sais, pas d'excès de joie, mais pas non plus de peine, parce que, tu sais, justement, c'est sûr que c'est le fun recevoir des prix, c'est sûr que c'est le fun être capable de sortir des albums, puis tout ça. Fait que c'est comme une bonne zone, justement, un bon mélange entre les deux. Fait que ouais.
Fait que ça t'apporte du calme un peu, comme t'es comme « OK, je suis bien partie ».
Exactement, tu sais, si je suis comme... On dirait que je m'assois pas, mais je suis pas en haut d'une colline non plus. Il y a comme... Je suis en montée tranquillement, puis on dirait que j'apprécie l'attente aussi, j'apprécie peut-être justement l'espèce de calme bizarre qui vient avec la musique de... Ça peut pas être un show à tous les soirs, tu sais. Ça peut pas être ça, puis on dirait que... Excuse-moi. On dirait que je l'apprécie, ça aussi, l'espèce de se lever le lendemain matin d'un spectacle puis être comme tout seul, ou après un show, prendre le métro puis on vient de se faire applaudir puis finalement personne nous reconnaît.
Ça, retour à la réalité.
Ouais, mais j'adore ces moments-là, si ça squick, c'est sûr, un peu, mais en même temps, c'est la vie, tu sais, puis c'est juste... La majorité des gens vont pas vivre de gros highs émotionnels de scène ou... Fait qu'apprendre aussi à revenir rapidement à la réalité, c'est quelque chose que j'essaie de faire un peu à tous les jours, parce que sinon ça peut être pénible, tu sais, pour les gens autour, là, tu sais. Fait que qui vivent pas ces highs-là de la même manière que toi. Fait que ouais, apprendre à comme être un humain là-dedans aussi, puis évoluer là-dedans.
Ben oui, puis même pour toi, de comme te rappeler c'est quoi la norme des émotions normales, tu sais.
Ben oui, c'est sûr.
Comme... J'imagine que quand tu vis des grosses émotions comme ça, ça peut peut-être devenir addictif, je sais pas, tu sais.
Un peu, mais en même temps, ça, on l'accepte, ben je pense. En tout cas, moi, à titre personnel, je l'accepte parce que justement, je vis pour ça aussi, là, tu sais. Je peux pas me cacher que je suis quelqu'un, justement, de avec qui vit avec l'obsession de faire bien ma job. Puis faire bien ma job, ça implique comme tout laisser sur une scène, puis travailler beaucoup, puis tout ça. Mais en même temps, justement, d'apprécier le calme, tu sais, dans la vie tous les jours, finalement, je m'assois puis je me dis, je suis quelqu'un d'assez calme. Je préfère souvent rester chez nous, tu sais, comme c'est ça ma vie. C'est juste que les gens ont l'image aussi de ce que je suis sur scène, tu sais, puis de tout ce que je fais, tu sais, au quotidien qui est comme qui sort un peu de la norme. Mais finalement, je le vois quand même comme un travail comme les autres, tu sais, dans le sens que ça reste me lever, écrire, travailler un peu, faire un peu d'admin. Ah, oh, j'ai un spectacle. Là, c'est de l'organisation, c'est de la préparation, c'est du travail. T'sais. Fait que de le voir comme ça aussi, ça garde calme, ça garde tranquille.
Ouais, ouais, c'est vraiment cool. je me demandais, ouais, comment tu procèdes quand tu composes? On s'en parlait légèrement tout à l'heure, mais est-ce que c'est un processus qui est plus solitaire pour toi ou c'est plus collectif? Puis est-ce que tu as des rituels qui t'aident à être créatif?
Je pense que ça dépend. Pour l'album qui va sortir la semaine prochaine, je pense que ça a été un processus quand même de groupe. Je suis accompagné de plein de musiciens, musiciennes différents. Puis dans les dernières années, j'ai comme bâti un peu ce cercle-là. J'ai le même drummer, le même bassiste depuis 5 ans. Puis après ça, j'ai dans les 3 dernières années, j'ai un guitariste, une saxophoniste, une violoniste qui se sont comme ajoutés là-dedans. Ça crée comme une espèce de bain. Puis on a baigné là-dedans, justement, dans cet univers-là créatif de OK, moi j'arrive avec des tunes, j'ai pas nécessairement tout le temps les arrangements. Fait qu'on a beaucoup fait d'arrangements ensemble. J'ai beaucoup travaillé aussi avec mon réalisateur Félix Diot. Pour les arrangements studio. Fait que, tu sais, il y a cet esprit-là, quand même, de collectivité. C'est drôle, hier soir, on a fait une soirée d'écoute de mon album parce qu'on a reçu les masters finaux la semaine dernière. Puis, c'était fou d'écouter ça avec tout le monde qui avait participé à l'album, des amis extérieurs, des collègues en musique, tu sais, puis de se dire, tout le monde se regardait, puis on était comme, hey, c'est vraiment notre album, tu sais, c'est comme, on est comme une gang qui a travaillé là-dessus, peut-être, je sais pas, 15-20 personnes, puis tout le monde se l'est approprié, tu sais, puis c'est parfait parce que quand on fait de la musique en studio ou sur une scène, même quand on est accompagnateur, si on n'a pas de lien avec la musique qu'on joue, je pense que ça peut ne pas donner le même résultat que si tout le monde se sent complètement interpellé par le matériel puis tout ça. Fait que j'ai vraiment... C'est une de mes plus grandes fiertés, c'est avec l'album, d'avoir créé cette espèce d'univers-là où tout le monde est confortable, tout le monde se sent bien pour créer à l'intérieur de ces chansons-là, de ces textes-là puis tout ça. Fait que, ouais.
Cool. Puis mettons... Au tout début d'une idée, mm-hmm. est-ce que c'est en groupe que vous faites de l'impro, puis là, ah, ça c'est cool, ou est-ce que c'est vraiment toi seul qui arrive puis qui présente ça au groupe après?
La partie principale de mon métier, si je peux dire, c'est d'écrire des tunes. Fait que j'écris toujours, tu sais, paroles, musique. Je fais vraiment de la chanson au sens le plus pur du terme, là, comme j'aime quand même m'inspirer des grands, des grandes de la chanson. Je pense qu'on a un héritage au Québec qui est formidable de texte, musique, tu sais. Fait que je compose à la guitare, au piano. Puis après ça, il y a l'autre partie qui est comme les arrangements puis tout ce qu'on met autour, tu sais. Fait que ça, à la base, c'est moins ma tasse de thé. Mais j'ai eu la chance justement de rencontrer des musiciens, des musiciennes qui ont étudié en jazz, qui ont étudié en classique, tu sais. Fait que tout ce bagage-là fait que quand on est en studio de répète, puis j'écris ça hier, je vous la joue une fois, ben après ça, comme tout le monde embarque, c'est super naturel. On est amis aussi, fait qu'on se connaît, on sait, OK, Manu va embarquer au violon, ah, ça c'est cool, ça j'aime ça. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup d'écriture, d'arrangements comme ça sur cet album-là. Pis sinon, il y a eu aussi, tu sais, je veux dire, j'ai eu des idées, puis je suis quand même, entre guillemets, le chef de projet, là. Fait que, tu sais, c'est toujours moi qui ai le dernier mot pour dire j'aime ça, j'aime pas ça, mais ils sont vraiment bons et bonnes, là, ceux qui m'entourent et celles qui m'entourent, pour pitcher des trucs, puis sortir des affaires aussi musicalement que moi, j'ai pas nécessairement le même background. Fait que d'avoir des idées de plein de backgrounds différents, c'est super enrichissant aussi, là.
Ben oui, 100%. Est-ce que ça te tente de nous jouer un morceau?
Certainement.
Et Emile va s'installer tranquillement.
Je une chanson qui s'appelle L'oreiller, que j'ai la chance de chanter avec ma copine aussi sur l'album, fait qu'il y a une superbe voix. Sa voix sera pas là, mais je la fais solo.
On l'imagine.
J'esquive le jour, comme on change de sujet. De marée haute en tête basse. Je sais plus vivre et puis après. Y'en aura jamais des comme toi. Des comme toi. Sous ton oreiller, j'ai laissé quelque chose. J'ai laissé toute ma vie à l'encre en quatre coins pliés. Sous ton oreiller, j'suis plus sûr de grand chose. J'suis plus sûr de grand chose. En forme familiale, déposée dans un corbillard. Je sais plus trop ce qui me fait mal, mais j'ai l'envie d'avaler les étoiles. Les étoiles. C'est quelqu'un d'autre. Et si je l'étais, ce sera plus moi. Ce sera plus moi. Sous ton oreiller, je suis plus sûr de grand chose. Je suis plus sûr de grand chose.
Merci, c'était magnifique.
Merci.
donc c'est une toune qui s'appelle L'oreiller. Est-ce qu'elle va être présente sur le prochain album?
Oui, cool. Elle sera là. Et comme je disais, c'est ça là-dessus. C'est une toune un peu plus acoustique. Il y a moi qui joue de la guitare. Il y a mon ami Thomas aussi à la guitare électrique. Puis il y a ma copine Sam qui chante avec moi.
OK, ouais. Génial. Et merci pour cette exclusivité.
Ben, ça fait plaisir.
On peut l'appeler comme ça.
C'est vrai, ça, en fait, c'est une exclusivité.
Génial. On est chanceux. je me demandais, est-ce qu'il y a des nouvelles directions musicales que tu as envie d'explorer, qui sortiraient un peu de ton style habituel, que tu mm-hmm. dis peut-être que tu vas explorer dans les prochaines années?
C'est sûr. Mais je pense que c'est mon esprit créatif est un peu fait comme ça. J'ai un peu envie de tout faire. Puis j'ai un peu envie de tout faire aussi dans ma vie. Puis je pense que c'est super important, en fait, autant comme l'humain que je suis, que l'artiste que je suis, d'avoir des idées. Puis c'est aussi super important, puis ça, je l'ai remarqué aussi dans le processus de l'album, d'en avoir des mauvaises, des fois. Je pense que c'est l'addition des mauvaises idées qui nous mène à des bonnes idées, je pense. En tout cas, dans mon cas, comment je fonctionne. Puis, tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, mais j'ai le goût de faire un album country, j'ai le goût de faire un album dance, j'ai le goût de... Tu sais, parce que j'écoute aussi plein de musique de plein d'horizons différents, fait que... tu sais, je pense que avec l'album qui sort la semaine prochaine, je pense que je me suis trouvé, pas nécessairement dans un style précis. C'est sûr que ça tourne autour du folk, du rock, de la pop. Mais je pense que je suis pas loin d'avoir trouvé un peu mon ADN d'auteur-compositeur puis d'interprète. Pas nécessairement dans le son, parce que j'ai l'impression que c'est une recherche qui se fait sur l'espace d'une vie puis sur l'espace de plein d'albums. J'espère, en tout cas, mon plus grand souhait, ce soit qu'une de mes tunes joue puis qu'on dise « Ah, ça me ressemble à du Émile Bourgault. » Mmh. Tu sais, c'est un peu le souhait ultime. Je sais pas si ça va être sur cet album-là, mais du moins, c'est la chose la plus aboutie que j'ai réussi à pondre, tu sais, dans les dernières années, je pense, avec, encore une fois, l'aide de plein de monde. Mais pour ce qui est de la recherche, tu sais, j'en fais tout le temps, j'essaie tout le temps plein de trucs, je commence à m'intéresser plus aussi à l'arrangement, tu sais, puis justement au son en tant que tel. Fait que c'est un peu infini, là. Puis je pense que l'important, c'est juste de garder sa touche, de trouver c'est quoi sa touche, puis après ça, on peut aller où on veut, en fait, là.
Mm-hmm, c'est intéressant, je me disais, est-ce que tu te poses la question de garder une certaine cohérence? Mais ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu vas avoir trouvé ta touche, qui est un peu abstrait dans le fond, tu sais.
C'est très abstrait, tu sais. Pourquoi, ouais. Quand on entend Philippe Braque, on se dit c'est Braque, peu importe mm-hmm. c'est quoi qu'il y a en arrière, tu sais. Après ça, ça vient souvent pas de nous, tu sais. On se réveille pas un matin, mm-hmm. puis on se dit ça y est, peu importe ce que je vais écrire, ça va sonner comme moi, tu sais. Je pense que c'est aussi la reconnaissance des pairs, puis la reconnaissance du public aussi, mm-hmm. tu sais. Fait que ça vient un peu avec ça, puis c'est impossible de promettre quoi que ce soit. Mais j'ai pas d'attente non plus par rapport à ça, là. Justement, je pense que d'abord, la création, c'est la liberté, peu importe que les autres en pensent. Fait que moi, je sens que j'ai avancé dans cette quête-là avec cet album-là. Puis je me mets pas de bâton dans les roues, je me mets pas de barrière non plus pour rechercher ailleurs.
Puis j'imagine que, tu sais, de toute façon, peu importe ce que tu explores, si au fond de toi, t'aimes ce que tu crées, mm-hmm. puis que tu sens que ça te représente, ça pourra pas être complètement incohérent avec tout le reste, parce que tout le reste...
Exact. Puis tu sais, je me passais le commentaire, l'album qui sort la semaine prochaine, c'est la première œuvre, je pense, que je crée, que je me suis pas tanné à travers le processus de création, tu sais. Puis tu sais, c'est normal, quand l'album va sortir, je l'écouterai pas dans mes écouteurs, là, tu sais. Ça fait 3 ans, on a écouté des mix pendant des semaines, tu sais. Fait que c'est normal aussi que cette chose-là soit pour les autres quand on la sort. Mais c'est le premier album que je sors et que je m'apprête à sortir et que j'aime encore les chansons. T'sais, je trouve encore qu'elles veulent dire quelque chose au stade où j'en suis, même celles que j'ai écrites il y a 2 ans, mettons. Fait que ça, c'est une grande fierté, une grande réussite pour un auteur-compositeur aussi, aimer ce qu'il fait. Fait que
ben oui.
J'aime encore ça aujourd'hui, puis je pense que je vais aimer encore ça dans 1 an pendant la tournée. Fait que je suis très content de ça.
Ouais, c'est sûr, ça doit être le fun de pas être tanné de jouer.
C'est sûr. Puis on sait jamais ce qui peut arriver non plus avec les tunes, fait que
ouais.
Faut aimer ce qu'on fait quand on le sort, oui, je pense.
100%. Quel défi as-tu rencontré en tant que jeune artiste? Parce que mm-hmm. peut-être que tu es tanné qu'on le rappelle, mais tu es plutôt jeune. Et comment as-tu surmonté ces défis?
Il y en a plein, des défis, mais je pense qu'il y en a pour tout le monde, de toutes les générations. Tu sais, je pense à ceux, celles qui ont commencé à faire de la musique à l'apogée du disque, tu sais, puis qui aujourd'hui doivent se renouveler. C'est pas facile pour eux autres non plus. Nous, on est plus dans l'ère numérique, l'ère TikTok. Moi, je sais que peut-être que j'aborde ça d'une autre façon, dans le sens qu'on dirait que j'essaie de pas me résigner à faut faire des TikTok, faut être sur Instagram. Ça a jamais été vraiment ma manière de voir ma musique. Je le vois quand même plus comme des œuvres à consommer. Peu importe la façon, mais je sais que je serai jamais une marque, là. Fait que, tu sais, ça, c'est... On s'en occupe plus, dans ma tête, en tout cas. Mais après ça, il y a plein de défis qui viennent avec ce choix-là, tu sais, dans le sens de le défi de la découvrabilité. La majorité de la découvrabilité se fait en spectacle. S'il y a pas de spectacle, ben, il y a pas de ça. Fait que s'il y a pas de spectacle puis il y a pas de vidéo, ça commence à faire, tu sais, beaucoup d'embûches. Mais tu sais, le plus gros défi, je pense, de nos jours, c'est qu'avec la masse d'artistes qui produisent des chansons puis des albums, c'est de se retrouver dans les oreilles de ceux qui vont en avoir besoin. T'sais, c'est de trouver son public. Puis ça, ben, t'sais, participer à des concours, ça aide. Qu'il y ait des diffuseurs de partout, des gens de partout qui viennent voir puis qui font « Ah, ça, ça me correspond. » T'sais, ce que moi, j'ai eu la chance de vivre. T'sais, je sais que j'ai élargi mon public là. Sinon, je pense que c'est comme... Tu sais, c'est cliché, mais de faire exactement ce qu'on veut faire puis ce qu'on a envie de faire, c'est sûr que ça a plus de chances de toucher des gens que si on se colle à quelque chose ou si on reproduit des trends ou si... En tout cas, c'est mon opinion. Mais j'essaie de rester le plus vrai possible. Mais ça reste, tu sais, un défi important. Moi, j'ai de la chance. Là, j'ai commencé à avoir des équipes autour de moi. C'est sûr que la machine de l'industrie de la musique est en constante évolution et elle change plus vite que jamais en ce moment. Fait que ça fait qu'il y a des artistes peut-être qui savent pas vers où se tourner quand ils commencent. Moi, j'ai comme... La première étape est faite. Je suis comme content d'avoir passé ça. J'ai sorti des trucs. J'ai rencontré du monde. Fait que tu sais, je commence tranquillement à avoir une certaine crédibilité au sein de la diffusion puis de tout ça puis de l'industrie. Mais c'est des questions qu'il faut se poser sans cesse de comment je vais faire pour rentrer là, comment je vais faire pour jouer là, comment je vais faire pour que les gens que je veux qui entendent ma musique l'entendent. T'sais. Fait que, mais tu sais, par exemple, recevoir une demande d'interview dans une radio, c'est... Non, mais c'est riche aujourd'hui, ça représente beaucoup, je vous remercie d'ailleurs, là. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de faire des tournées médiatiques aujourd'hui, puis moi, j'en ai une pas si pire là, dans la prochaine semaine, fait que je suis très reconnaissant pour ça aussi. Fait que, ouais.
Ben, c'est avec grand plaisir, puis c'est vrai que c'est le fun de... Ben, c'est le fun, ça doit pas être tout le temps le fun, mais c'est intéressant d'essayer de trouver des manières de déjouer les patterns qui sont... très établi de, mettons, les artistes qui sont découverts sur TikTok, mais qu'après ça, t'es un peu étiqueté aussi, j'imagine.
Ben oui, certainement. Puis après ça, je ne crache pas du tout là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont excellents à le faire, que le contenu est là, que c'est beau visuellement. Moi aussi, c'est que je suis vraiment nul en visuel, je suis nul en tout ça, j'ai pas la touch, j'ai vraiment... J'arrive sur un téléphone, je suis vraiment comme une personne de 50 ans, là. Fait que, tu sais, comme... Je pense que de me forcer à faire ça, il y aurait de quoi d'un peu fake qui ressortirait. Mais après ça, il y en a qui le font super bien, qui comprennent full bien les mécanismes puis tout ça, puis c'est parfait si ça marche pour eux. Le problème pour moi avec ça, c'est que ça vient avec une espèce de pression de créer du contenu. Puis moi, ça, c'est sûr que ça fonctionne pas avec l'ADN que j'ai de créateur qui est... Je fonctionne quand même en lenteur, puis je fonctionne quand même à mon rythme. Fait que avec une feuille puis un crayon, il y a personne qui nous attend, tu sais, alors que, tu sais, j'en ai plein des amis artistes qui passent à tous les jours, qui puis ça fonctionne full plus que moi là. Mais c'est peut-être pas le canal que je vais emprunter, tu sais, je suis quand même attaché aussi au bouche à oreille, au fait de... Puis je sais que ça sera plus tranquille, la pente va être peut-être un peu plus longue, mais à la fin, peut-être que le public sera un peu plus fidèle ou je serai moins stressé de le perdre d'un coup si je pose pas. T'sais. Ça, c'est des trucs qui me tentent moins de vivre à tous les jours.
Ben oui, puis tu sais, je pense que c'est quand même admirable aussi de savoir qu'est-ce qui est fait pour toi puis qu'est-ce qui n'est pas fait pour toi, puis de ne pas te forcer parce que tu penses que c'est la seule manière d'y arriver. T'sais, c'est le fun de se dire, ben, t'sais, moi, c'est pas ça ma voix, puis peut-être que ça va prendre plus de temps, mais au moins, ça va être sincère,
exact.
Intègre.
Exactement, exact.
C'est honorable. J'ai jamais dit, mais je l'ai pas. comment ta famille a réagi à ton envie de faire de la musique? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que t'es le premier qui veut faire ça? Comment ils t'encouragent ou non là-dedans?
Moi, je suis enfant unique, fait que c'est sûr que... t'sais, je veux dire, j'ai quand même souvent été au centre de notre vie de famille à la maison. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'ai joué au hockey, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait un peu de tout. Puis c'est ça, j'ai comme développé cette flamme-là au début de l'adolescence. Mes parents m'ont full supporté là-dedans, j'ai été extrêmement chanceux. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, puis moi je les remercie d'ailleurs à ce jour parce que j'ai toujours senti énormément de support dans ce choix-là que je voulais faire. Après ça, c'est sûr que moi c'est arrivé très jeune, j'ai eu la conscience du jeune que c'était ça dans quoi je m'en allais, fait que l'école à cette époque-là c'était pas quelque chose d'important, tu sais, dans ma vie, fait que ça passait peut-être moins, puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, je me mets à leur place aujourd'hui, puis je suis comme, ben, moi j'aurais aimé ça qu'ils finissent son secondaire 5. Je l'ai, mais tu sais, je me suis pas rendu plus loin que ça. Puis j'ai pas de regrets par rapport à ça, puis je pense pas que je détestais. Je pense que je suis quelqu'un de curieux qui aimait beaucoup apprendre des choses. C'est plus la tâche, puis la manière que l'école est construite qui me parlait moins. J'avais besoin d'énormément de liberté, toujours plus, fait que. Mais j'ai fait ce choix-là milieu d'adolescence, 15-16 ans, je savais que je voulais faire ça. Fait que non, ça s'est quand même très bien passé niveau famille. Mes parents sont pas musiciens, mais ils m'ont toujours fait écouter énormément de musique, puis de culture, puis généralement théâtre, télé, tout ça. Fait que je suis bien tombé avec des parents qui comprenaient un peu, tu sais, la base de c'était quoi faire ça. T'sais, j'ai jamais eu droit à des phrases du genre tu sais, c'est difficile, l'industrie, pis tout ça. Je pense que, je sais pas si c'était de la naïveté, en fait, ou parce que c'est difficile, mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai gagné mon pari, entre guillemets, parce que je vis de ça, pis je suis super heureux dans ce que je fais, pis je pense qu'ils l'ont vu, peut-être, dans mes yeux, là, quand j'avais 15-16 ans, que c'était ça qu'il fallait qu'il se passe, pis j'ai eu beaucoup de chance jusqu'ici de pouvoir le faire. Mais je pense qu'ils sont contents, ils sont fiers de moi. Puis c'est normal aussi, des fois, faut accepter quand on a des enfants qu'ils feront pas ce qu'on a fait nous, puis qu'ils vont faire ce qui les rend heureux. Mais c'est ça, je suis heureux, ils sont heureux, fait que je pense qu'on a gagné.
Mais tu sais, je pense aussi que d'avertir quelqu'un que ce qu'il va entreprendre, c'est difficile. C'est utile jusqu'à un certain point. S'ils veulent le faire de toute façon, ils vont juste le faire avec plus de peur puis de crainte. Exact. Alors que toi, t'étais comme, OK, ben let's go, tu sais. Puis je pense qu'il y a une certaine attraction de la chance, puis de la facilité, puis, ben pas de la facilité, mais tu sais, si tu vas en mode c'est possible, ben peut-être que.
Ben tu sais, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie souvent. Les gens qui pensent, qui parlent par exemple de la musique comme étant quelque chose d'impossible ou. T'sais, moi, je leur répondrais, mais allez-vous voir des spectacles? Est-ce que vous écoutez de la musique? Oui, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui réussissent. T'sais, je veux dire, c'est... Les festivals sont pleins, les salles sont pleines. C'est des monsieur, madame, tout le monde qui vont voir des spectacles, qui achètent des albums. Fait que ces gens-là, ils vivent. Là. C'est pas... Bon, là, j'allais dire c'est pas l'intelligence artificielle. Là. C'est comme un autre gros sujet. Mais c'est des vrais humains, tu sais, qui font ça puis qui ont fait le choix, comme moi, à un moment donné, de lâcher l'école, peut-être, puis d'aller écrire des chansons, tu sais. Ça prend du monde qui écrive des chansons si on veut en écouter, si on veut aller voir des shows. Fait que c'est aussi simple que ça dans ma tête, là. Il y a un calcul mathématique qui se fait de, ben, s'il y a du monde qui écoute, ben, il y a du monde qui en font.
Ben oui, il y a une chance que les gens continuent d'essayer parce que la vie serait triste si.
Exactement. Puis, mais aussi, une chance, tu sais, il n'y avait pas de mépris là-dedans, puis une chance que les gens achètent des billets, puis on les encourage toujours à le faire plus, mais il y en a beaucoup qui le font encore. Fait que c'est du donnant-donnant, mais il faut laisser la chance aux jeunes qui veulent peut-être se perdre, peut-être un peu là-dedans, parce que le chemin est moins tracé de le faire, parce que c'est ce qui va, c'est ce qui a donné Daniel Bélanger et ben compagnie. Oui. Là, fait que...
Vraiment. Ouais. Est-ce que ça te tente de nous jouer un deuxième morceau?
Certainement. Je suis en train de me demander ce que je veux. Je pense que je vais vous jouer une chanson qui s'appelle « Juillet ». C'est une toune un peu légère dans l'album, ma petite toune d'été. Voilà. Juillet s'écrase et le vent tourne en rond. Les journées se cassent et la ville s'effondre. Un linge à vaisselle, un tapis d'oiseaux,
sur le balcon. Mes lèvres de sable sur tes yeux qui font. Samy, reste avec moi. J'ai vu tant d'amour, j'ai senti tant de choses, et tellement, tellement tout abandonné. Mais si le soleil plombe, que les toits s'écroulent, Samy, j'aurai besoin de toi. Tant de choses, Samy, reste avec moi. Samy, reste avec moi.
Merci. Donc ça, c'était Juillet.
Exact.
Encore une fois, super. On la verra aussi dans le prochain album.
Exactement. Génial. C'est celle qui ouvre ce disque.
OK, super. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux nous décrire l'album qui sort la semaine prochaine un petit peu?
Certainement. C'est un album de 10 chansons composées, comme je disais, dans les 3 dernières années. C'est Félix Diotte qui a réalisé cet album-là. Félix qui travaille avec plein d'autres artistes aussi et qui m'a fait l'honneur de réaliser cet album-là. J'ai beaucoup de collaborateurs que j'aimerais nommer, mais ce serait super long. Fait que je vais vous en nommer juste quelques-uns. Sam Tanguay, ma copine, qui a fait tous les visuels de l'album, les photos, la pochette, la merch. Thomas Saunier à la guitare, qui a été super important. Louis-Julien Durso à la direction vocale en studio, qui a beaucoup, beaucoup aidé. Alex Métivier derrière la console, qui ont été, là, je vous ai nommé pas mal les plus importants. Sinon, comme je disais, 10 chansons, ça parle d'amour, je dirais de passage à l'âge adulte, premier appart, tout ça, première relation. Donc, ça peut être un thème un peu cliché, mais bon, vous verrez si vous aimez ça. Donc voilà, ça sonne rock, ça sonne folk, des fois ça sonne pop, donc ça s'appelle Tant mieux, donc voilà.
Génial. Ben, ça me donne le goût, en tout cas. Puis t'as aussi, c'est ça, on peut aussi aller écouter tes deux autres EP.
Exactement, encore disponible partout. Génial. Et il y a 2 spectacles de lancement. Un à Montréal, le 9 avril, donc dans 10 jours à peu près. 4 jours après l'album, au Lion d'Or. Les billets sont disponibles sur mon site web. Et 3 jours après, on joue à Québec, au Pantoum, le 12 avril. Les billets sont aussi disponibles, donc ça vous dit... de venir voir ce show-là. C'est une mise en scène également de Louis-Julien Durso qui a fait la direction vocale. Donc, génial. On va avoir plein de fun.
Wow! J'ai 2 petites questions sans aucun rapport pour bien finir cette émission. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque, laquelle est-ce que tu choisirais?
Ah, wow! Je pense que je serais né dans les années 50, mais de parents riches. Voilà!
C'est important de le préciser. J'adore cette réponse. Puis, est-ce qu'il y a une chanson de l'album qui sort que tu... ta chanson chouchou un peu?
J'aime beaucoup La Linéa, qui est sortie en single, que vous avez entendu. Mais sinon, j'aime beaucoup Nos Amours Cimetières, que j'ai écrite avec Sophia Duhem, qui chante également. C'est le seul featuring, entre guillemets, sur l'album. C'est mon amie Sophia qui chante super bien. C'est une tune qu'on a écrite ensemble, donc j'ai full hâte que les gens l'entendent. Mais je dirais que c'est comme mes 2 préférés.
Super. Mais merci beaucoup, Émile Bourgault. Puis, bonne soirée tout le monde.
Ça fait plaisir. Bye-bye.